Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour, au menu d'aujourd'hui, un éditorial, la ville du quart d'heure. Une belle rencontre, Pascal Lebrun-Cordier, qui nous parlera de l'art dans la rue et pas seulement. Le sujet qui fâche, réveiller les villages, les bourgs et les petites villes, avec Olivier Rasmont et Antoine Bray. Et puis, le coup de cœur n'est pas cette fois-ci un livre, mais un film. Un film qui est ressorti en DVD, Main basse sur la ville.
Urbanité. L'édito.
Qui n'a pas rêvé de trouver ce dont il a besoin pour son quotidien à deux pas de chez lui ? Non seulement la nourriture et la boisson, mais aussi la presse, la laverie automatique, la droguerie, l'épicerie bio et les services, comme le coiffeur, le médecin, le kiné, le réparateur de vélo, que sais-je encore. Avant, on appelait ça la vie de quartier. Lorsqu'on ouvre un hypermarché à la périphérie des villes, accessible aux seuls consommateurs motorisés, l'on déplace la centralité des activités afin que des coursiers viennent vous livrer à domicile. On transforme le rez-de-chaussée des villes en tuyaux aux murs aveugles. Plus de contact humain, des applications smartphone, tapez 1, tapez 2 et validez votre paiement par carte bancaire. Comme le dit si justement Jean-Luc Godard, avant il y avait machin, maintenant il y a machine. Vivre dans un quartier bien équipé où l'on trouve tout à pied à moins d'un quart d'heure et de son logement paraît aller de soi. Pourtant, la typomorphologie des villes, le tout voiture, l'emplacement des commerces et des services ne favorisent pas partout leur répartition équitable. Il existe des centres-villes quasi dépourvus de commerce, sauf ceux destinés aux touristes, tout comme des coins pavillonnaires essentiellement résidentiels, où les habitants rentrent chez eux en voiture après avoir fait les courses ailleurs. Il y a des villes très étendues et mal desservies en transport en commun, où l'habitant n'a rien à se mettre sous la dent à moins d'une bonne demi-heure de déambulation. Il est donc impossible de proclamer qu'il faille établir la ville du quart d'heure, comme la ville de Paris le fait avec une élue qui y travaille à plein temps. Et pourquoi pas 5 minutes ? Et pourquoi pas 20 minutes ? Pour certains quartiers de Paris, sans être trop regardant sur la qualité des produits, des services et leurs coûts, un jeune diplômé au salaire confortable aura l'impression que tout lui appartient dans un rayon d'un quart d'heure de marche. Mais dès que d'autres critères interviennent, il lui faudra changer de quartier et y aller à vélo. Promouvoir un standard ne peut que standardiser. Le citadin est un être paradoxal qui veut du bruit et du silence, de la solitude et de la multitude, de la vitesse et de la lenteur. Ses humeurs guident ses actions et lorsqu'il fait le marché, il prend son temps. Par contre, un soir, rentrant tard de son travail, il ne veut pas consacrer la moindre minute à acheter de quoi dîner. Alors, il commande des chouchis. Déjà au cours des années 50 du siècle dernier, des sociologues, se sont intéressés à la vie quotidienne afin de doter chaque quartier de ce qui la rendrait, de ce qui le rendrait agréable. La fameuse grille Dupont des désastreux grands ensembles attribuait un emplacement à chaque activité, tout comme dans l'unité d'habitation de Le Corbusier, avec sa rue commerçante au troisième étage, l'école au dernier et sa cour de récréation sur le toit. Après mai 68, le slogan « Changer la ville pour changer la vie » s'attarde sur les conditions de transport, c'est la dénonciation de l'aliénant métro-boulot-dodo, les horaires des services publics et des commerces pas assez ouverts, la consécration du week-end libre. De nombreux rapports visent à réaliser la révolution du temps choisi pour reprendre le titre d'un ouvrage majeur, Paris en 1980, sous la direction de Jacques Delors, dont la fille, Martine Aubry, sera à l'origine des 35 heures. La Datar, à la fin des années 80, du siècle dernier, aborde la question du chrono-urbanisme. Le ministère de la Ville commande à Edmond Hervé, maire sénateur de Rennes, un rapport sur le temps des villes, remis en juin 2001. De mon côté, modestement, je publie le quotidien urbain, essai sur le temps des villes, qui montre l'hétérogénéité du temps et l'inégalité temporelle des territoires, tout en appelant à une chronotopie, c'est-à-dire à un ménagement des lieux à partir de leur appréciation de leurs usages temporalisés et genrés. À cette époque, l'on découvre les bureaux des temps que l'Italie tente de généraliser suite à la loi Turcot, qui affirme que les femmes changent le temps. Ceux d'Allemagne, de Suède, des Pays-Bas. Les villes françaises tardent à s'y mettre. Poitiers et Rennes donnent l'exemple au début du siècle. À présent, celles qui élaborent une politique temporelle demeurent exceptionnelles. Anne Hidalgo, avec cette responsabilité lors de la première mandature de Bertrand Delanoë, on ne s'en souvient pas. À dire vrai, il convient d'entrelacer les temporalités qui s'inscrivent dans nos territoires et territorialiser nos temporalités existentielles. Pour le dire avec les mots de Bachelard, il nous revient de fiancer la topoanalyse et la rythmanalyse. Ceci concerne aussi bien le vivant que les humains. La ville du quart d'heure, c'est de la com. Un truc de privilégié comme la ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui oublie que pour qu'elle fonctionne jour et nuit, il faut des travailleurs dans la soute. Il nous faut cultiver les no man's time, qui sont l'attente, l'ennui, la sieste, la rêverie, et espérer harmoniser les temps sociaux avec les chronologies biologiques des êtres vivants, et contrer toute normalisation de tout emploi du temps. Le temps est une gourmandise qui échappe à toute dimension fonctionnelle et utilitariste. Gardons-lui cette qualité et récusons toute quantification temporelle.
Urbanité, la belle rencontre.
Pascal Lebrun-Cordier, professeur associé, directeur du Master 2 Projets culturels dans l'espace public de l'Université de la Sorbonne, qu'il a créé en 2005, créateur également et directeur artistique de la ZAT, Zone Artistique Temporaire, qui un événement artistique en plein air organisé à Montpellier au cours des années 2010 à 2014. Il a été, je dis été parce que malheureusement cette revue s'arrête maintenant, il nous expliquera pourquoi, il a été le rédacteur en chef de l'excellente revue Klaxon, qui publiait 2 numéros par an en français et en anglais. Pascal, d'où te vient cet intérêt pour l'art dans la rue ?
Cet intérêt pour l'art dans la rue, pour le surgissement poétique inattendu, pour le court-circuit, pour ces moments de trouble dans la rue, dans la ville, me vient de rencontres que j'ai faites quand j'étais étudiant à Bordeaux, dans les rues de Bordeaux, des performances dans l'espace public, des spectacles extrêmement marquants qui m'ont happé. D'abord des spectacles en vérité, et pas uniquement dans la rue pour dire vrai, des spectacles qui débordaient de la scène, déjà dans la salle, par exemple le collectif catalan La Fura dels Baus, qui dans les années 90 a multiplié les spectacles immersifs et expérientiels, où le public était bousculé, poursuivi même par les comédiens, des mondes, finalement, dans lesquels nous étions invités à pénétrer. Puis ensuite, Royal de Luxe, avec ses marionnettes géantes dans la ville, qui dépassent les immeubles, qui arpentent les rues avec une nonchalance, avec une élégance, avec une étrangeté totale, inscrits dans l'ordinaire urbain, dans le quotidien de la ville. Et puis des performances très étranges. Voilà. Et c'est finalement cette tension entre l'ordinaire de la ville, le quotidien urbain, la banalité finalement de l'espace public et ses apparitions, ses figures, ses mouvements inattendus, ses fictions incarnées finalement, c'est cette tension qui m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que quand on est dans un théâtre, quand on est dans une galerie ou dans un musée, finalement l'étrangeté des œuvres, leur grande singularité est en quelque sorte contenue par le cadre, alors que dans la ville, cette irruption, encore une fois, du poétique, cette irruption de ces figures, que ce soit des figures plastiques ou vivantes, d'art vivant ou d'art visuel, elle ne peut pas ne pas provoquer un trouble. Et c'est ce trouble qui m'intéresse finalement, ce vertige, cette tension, cette incertitude, le sentiment qu'on peut avoir que le sol se dérobe sous nos pieds, ou que voilà, quelque chose se déchire dans le ciel, ou dans la temporalité, pour faire écho à ce que tu viens de nous dire. C'est ça qui m'a intéressé finalement, c'est ce croche-pied finalement possible quand on inscrit l'acte artistique dans la rue, dans la ville, ce croche-pied qui nous fait trébucher, qui nous réveille, qui nous éveille, qui nous perturbe, parfois qui nous met KO, parce qu'on a aussi des coups de poing dans le ventre avec certaines œuvres. Il y a toute une palette évidemment dans les effets de l'art en espace public, de la caresse au coup de poing, si je puis dire. Ben voilà, c'est cette situation, je dirais, cette situation très particulière qui, au fond, m'intéresse, me fascine, me bouleverse souvent et que je cherche à recréer, effectivement, que ce soit en tant que programmateur, directeur artistique, concepteur d'événements ou en tant qu'observateur, c'est-à-dire en tant qu'enseignant ou auteur de textes, dans une position ou l'autre, en fait, je continue à enquêter sur ces situations troublantes.
Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone artistique temporaire ? Est-ce qu'elle est parente du projet d'Hakim Bey ? Avec la fameuse TAS, hein, zone alors, autonome temporaire.
Oui et non. Non, parce que les TAS, d'abord, Hakim Bey a bien expliqué, sont assez indéfinissables. Ce sont des moments furtifs et qui échappent au pouvoir, au contrôle, à l'autorité. Enfin, voilà, c'est une notion assez difficile à capter. Et au fond, dès qu'on tenterait de nommer une action, un événement ou une situation TAS, on aurait tort, presque, hein, nous dit Hakim Bey. Mais bon, alors non aussi pour une autre raison, c'est que ce projet que j'ai inventé et mis en œuvre avec la ville de Montpellier était justement porté par une ville. Donc on est très loin de la philosophie libertaire, je dirais, d'Hakim Bey, évidemment. Hein. Et en même temps, ce qui m'a intéressé dans les TAS, donc les zones autonome temporaire, donc c'est pas exactement la même déclinaison que j'ai proposée pour cet événement, hein. C'était zone artistique temporaire, mais bien sûr c'était un clin d'œil, parce que ce qui m'a intéressé, c'est l'idée de l'importance de l'utopie finalement, et justement de l'utopie inscrite dans le quotidien, donc de l'hétérotopie peut-être, hein, c'est-à-dire de ce surgissement improbable, de l'improbable dans l'ordinaire donné, on va dire, de la ville. Donc c'est cette idée qui m'a plu, cette idée que l'on va perturber la ville, et puis qu'on va aussi créer une poche, une bulle qui va échapper aux règles habituelles, voilà, qui va nous faire échapper aux règles habituelles. Donc d'où le clin d'œil, effectivement, au TAS d'Hakim Bey, mais la manifestation dont nous sommes en train de parler, les zones artistiques temporaires, c'était aussi beaucoup d'autres choses, en vérité, c'était l'idée de mettre en récit la ville d'une manière alternative, d'inventer des récits alternatifs, d'inventer une sorte d'alter-tourisme aussi, une autre façon de visiter la ville. Voilà, de l'explorer, de la révéler, hein, mais aussi de la décaler. Voilà, donc ce projet, en fait, avait plusieurs dimensions. Et pour finir sur le mot TAS, il se trouve que ZAT, puisque la manifestation s'appelait ZAT, qui est la traduction française de TAS, si on veut, mais encore une fois, avec cette petite modification de la zone artistique temporaire, eh bien, c'est un mot en occitan qui veut dire « regarde ». Et donc, regarde la ville, ZAT Montpellier, ça voulait dire regarde la ville. Donc, on était très heureux de découvrir aussi que la signification de ZAT était en fait exactement notre projet, puisque cette opération, cette manifestation que j'ai dirigée pendant 5 ans, était une invitation à voir la ville autrement, finalement, à regarder Montpellier autrement, à regarder ses quartiers, à les éprouver aussi, pas juste à les regarder, mais à les éprouver, à les habiter. D'une manière décalée, voilà, sortir des routines et imaginer d'autres manières d'installer nos corps, de poser nos regards, voilà, mettre d'autres rythmes dans la ville, d'autres images, d'autres imaginaires, et en même temps que ces images et ces imaginaires, ces rythmes, ces figures soient greffés dans la ville, c'est-à-dire pas plaqués, ça m'a jamais intéressé justement. Enfin, c'est parfois intéressant, la création artistique plaquée dans la ville, mais moi je suis plutôt un jardinier qui greffe, ou plutôt ami des artistes jardiniers qui greffent, si on veut, et qui vont travailler la bouture, qui vont travailler une manière d'inscrire l'acte artistique dans le réel, d'être contextuel, pour le dire vite, de trouver un écho, une résonance avec le paysage urbain, avec l'histoire, avec un coin de ville, un coin de rue, un coin de jardin. C'est cette greffe qui m'intéresse, cette greffe qui va connecter en quelque sorte la fiction aux données, à l'existant, au quotidien.
Donc c'est un temporaire qui est quand même, qui s'inscrit dans une durée, enfin qui espère perdurer. C'est pas simplement un acte spontané, éphémère, furtif. Est-ce que tout ça, ça constitue ce que tu appelles dans certains de tes textes la culture expérientielle ?
Ah oui, alors ça c'est une notion que j'ai essayé de creuser ces dernières années. Parce qu'en fait, pour revenir sur les ZAT, je me suis rendu compte au bout d'un moment, quand je croisais le lendemain d'une ZAT, donc on en a fait effectivement 2 par an dans la première période de la manifestation, et ce qui me surprenait toujours, c'est que je croisais des amis dans les rues, je leur disais « alors t'es venu ?» Il m'a dit « ah oui, oui. » Les gens me disaient « oui, je suis venu, c'était super, etc. » Et je leur dis « mais qu'est-ce que t'as vu exactement ?» Et là, souvent, les gens cherchaient, me disaient « mais qu'est-ce que j'ai vu ?» Et je me rendais compte qu'ils n'avaient vu aucun spectacle, ou qu'une performance, ou très peu. Mais le souvenir qu'ils avaient des 2 jours ou des 3 jours qu'ils avaient passés, enfin j'exagère un peu, ils avaient vu quelques spectacles bien sûr, mais assez peu, était beaucoup plus lié à une ambiance, à une expérience globale de la ville, qu'à une confrontation directe avec un spectacle, alors même s'ils en avaient vu encore une fois. Mais je dirais que la dimension, je dirais, expérientielle globale de la ville était première dans leur vécu de la ZAT. Ce qui signifiait que voilà, on arrivait effectivement à décaler au-delà du strict rapport à des œuvres, on arrivait à décaler quelque chose de la ville. Bref, c'était un point de départ pour réaliser que, encore une fois, au-delà de l'expérience des œuvres, c'est l'expérience globale qui inclut, par exemple, l'odeur du feu dans la ville. Parce qu'on a, on a souvent travaillé avec la compagnie La Machine, Pierre de Mecknem, qui installe des braseros, qui installe des dispositifs de scénographie avec du feu. Et donc l'odeur du feu dans la ville génère évidemment des émotions, un imaginaire, un état d'esprit particulier. Et en soi, c'est pas exactement un spectacle, hein, c'est un élément de décor, de scénographie. Et c'est ça qui intéressait les gens. Alors du coup, oui, l'art expérientiel, la culture expérientielle, pour moi, c'est tout ce qui, dans la création artistique ou la vie culturelle, nous invite à vivre des expériences qui vont au-delà du simple rapport aux œuvres, au-delà du fait de voir un spectacle, de voir une vidéo, de voir une installation plastique. Quelque chose qui nous engage, quelque chose qui nous enveloppe, quelque chose qui nous immerge, qui nous provoque, qui nous incite à agir et à réagir, voilà, qui touche tous nos sens, et pas uniquement la vue, hein, puisque l'expérience esthétique classique, elle est souvent plutôt limité au regard, on touche rarement et on est rarement touché aussi. Voilà, donc je dirais que c'est une expérience polysensorielle, immersive, souvent interactive, engageante. Bref, c'est l'expérience au sens fort, au sens de John Dewey, philosophe américain, au sens aussi où d'ailleurs on parle d'économie de l'expérience depuis une vingtaine d'années. Hein, c'est tout un champ dans le monde du marketing et de l'économie néolibérale qui nous explique qu'aujourd'hui la plus-value, elle est faite non pas par le commerce des objets ou par les services, mais par justement l'expérience, l'économie expérientielle. Donc, moi je cherche à me démarquer bien sûr de cette vision de l'expérience hein, qui est uniquement, je dirais, économiste et néolibérale finalement. C'est-à-dire qu'on cherche à nous vendre quelque chose. Là, il s'agit plutôt d'engager un rapport à la vie, un rapport au monde qui soit plus riche, plus intense et plus troublant, je reprendrai ce terme aussi que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je crois que les acteurs culturels et les artistes ont des moyens, ont une boîte à outils extraordinaire pour créer des expériences qui aient des qualités, je dirais, de complexité, de richesse, d'étrangeté. Et d'autres encore, bien sûr, en fonction des projets artistiques. Et effectivement, la ZAD, c'était pour moi un projet expérientiel, même si à l'époque, je n'utilisais pas tellement ce terme, même jamais, parce que c'était plus que le fait de voir des spectacles. C'était, encore une fois, adopter une attitude, des postures, vivre la ville, en quelque sorte, de manière différente que d'habitude, c'est-à-dire sortir des routines de déplacement, des routines consuméristes, des routines qui nous font arpenter la ville avec une palette, je dirais, de démarches relativement limitées.
De sensations, de sensorialités différentes.
Exactement.
La revue Klaxon, elle, qui est une revue belge, tu vas nous en dire deux mots, elle vise justement à valoriser toutes ces expériences artistiques dans le contexte urbain.
Oui, c'est
mais
une
pas seulement, mais enfin, il y a déjà
oui,
ça. Quoi.
C'est une revue dédiée aux arts vivants dans l'espace public, effectivement, qui a été créée par le CIFAS à Bruxelles, avec le soutien du réseau européen In Situ. Alors, effectivement, la revue s'arrête, mais peut-être pas, enfin, c'est pas encore très clair. Mais disons, dans sa forme actuelle, effectivement, on vient de faire paraître le dernier numéro, numéro 13. C'est une revue gratuite, en ligne, hein, donc il suffit de chercher CIFAS et Klaxon, CIFAS et Klaxon, revue Klaxon, pour la télécharger en PDF, etc. Et cette revue, oui, elle enquête sur la manière dont les arts vivants se déploient dans l'espace public, dans la ville, dans la cité.
Non, mais je précise que c'est absolument passionnant. Moi, je l'ai téléchargé. Je ne la connaissais pas, je l'avoue. Et donc là, j'ai découvert des numéros entiers, très détaillés, avec des points de vue. Alors, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que des points de vue que je trouvais communs à d'autres chercheurs, à d'autres auteurs, ça, mais qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence. C'est assez curieux. Hein. Alors, comme on n'a plus que quelques minutes, le dernier numéro traite de la pandémie. Pour en dire quoi ?
Alors en fait, les deux derniers numéros sont liés. Le numéro 12 s'appelle « Reconfigurer nos imaginaires du vivant ». Et donc, il est question de la manière dont l'art, la création artistique peut transformer nos représentations, nos imaginaires du vivant, et justement pas de la nature, mais du vivant. Donc on a présenté des démarches artistiques qui effectivement modifie, reconfigure nos conceptions du vivant. Voilà. Et ben, encore une fois, au-delà de la notion de nature, on s'inscrit dans la descendance de Descola, finalement, de Philippe Descola, hein, qui considère que le concept de nature est historique, situé, et qu'il faut le dépasser aujourd'hui pour penser le monde autrement.
Il veut surtout qu'on dépasse le dualisme nature-culture.
Exactement, le dualisme nature-culture, effectivement. Mais disons que le concept de nature est intrinsèquement, du coup, lié à la notion de culture. Et le numéro 13, lui, n'est plus uniquement sur les représentations et les imaginaires, mais sur l'agir. C'est-à-dire comment transformer, non pas nos imaginaires, mais des situations. Et donc là, on évoque l'art-action, on évoque l'art transformationnel, on évoque les créations artistiques qui visent à modifier le monde, un bout du monde, un état du monde. Donc, que ce soit des démarches activistes ou artivistes, ou des démarches de réparation, il y a foultitude d'artistes qui travaillent dans l'espace public, qui travaillent à transformer le monde, encore une fois, de manière matérielle, de manière très concrète. Et c'est ça qui nous a intéressés. Alors, j'invite notamment à lire, dans ce numéro, il y a quatre articles principaux, mais un texte extraordinaire de John Jordan et Isabelle Frémaux, qui ont créé le laboratoire d'imagination insurrectionnelle il y a quelques années, et qui sont aux côtés des activistes depuis très longtemps, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, mais par le passé à d'autres endroits, et qui ont écrit un texte très intéressant, très perturbant, qui s'appelle « Notes sur la culture de la rébellion », où ils critiquent un art extractiviste, c'est-à-dire qui va proliférer, je dirais, sur la crise, sur les souffrances et les douleurs du monde, mais pour produire simplement de la valeur artistique et non pas pour transformer les situations. Voilà, dans ce même dossier, il y a un entretien entre l'écrivain Camille de Toledo et Sébastien Thierry du Pérou, du pôle d'exploration des ressources urbaines, passionnant sur l'architecture de l'hospitalité. Un papier également sur les artistes soutenus par Coal, Laurent Germont et Coal, c'est-à-dire des artistes œuvrant là aussi à transformer le vivant. Et enfin, un très beau texte d'un artiste qui aujourd'hui est aux commandes d'Extinction Rébellion à Bruxelles et qui nous explique justement ce qu'il fait, ce que fait Extinction Rébellion pour transformer des situations par l'action directe.
C'est là où on rejoint un peu Hakim Bey, nous sommes tous des pirates.
Urbanité. Le sujet qui fâche.
Le sujet qui fâche. Réveiller les villages, les bourgs, les petites villes, les bêbes, les moyennes. Olivier Rasmont, journaliste d'investigation, auteur en 2016 d'une remarquable enquête « Comment la France a tué ses villes », publiée aux éditions Rue de l'Échiquier, et aussi « La tentation du bitume » en 2012, et de deux autres essais « Le pouvoir de la pédale » en 2014 et « Les transports de la planète et le citoyen » en 2010. Antoine Bray, on dit Bray, c'est ça ?
Bresse. Comme Jaurès.
Ah, pardon, mille excuses, Antoine. Alors, Antoine Bresse, architecte, alors là, il faudra me corriger tout, hein. Architecte urbaniste, enseignant-chercheur, titulaire d'une HDR en urbanisme et aménagement, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et depuis 2012, membre du conseil scientifique de l'atelier international du Grand Paris. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont « Territoire frugal », « La France des campagnes à l'heure des métropoles », publié chez Métis Press en 2017. C'est une des raisons pour laquelle, Antoine, tu es là, évidemment. Et puis avec Francis Beaucyr et Béatrice Mariol, « De figures discrètes de l'urbain à la rencontre des réseaux et des territoires », toujours chez Métis Press en 2015. La thèse d'Olivier est la suivante. « La multiplication des centres commerciaux à la périphérie des villes, petites et moyennes, tue le commerce de centre-ville, décentre la ville, l'ensommeille. » 5 ans après ton enquête, qu'en est-il ?
J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer dans les villes petites et moyennes, beaucoup plus forte qu'à l'époque. Il y a eu le plan Action Cœur de Ville, notamment du gouvernement. Il y a aussi localement la volonté de beaucoup d'acteurs, des élus, des citadins, des artistes, en effet, toute une série d'acteurs de la ville ou de la petite ville ou de la bourgade de pas se laisser faire, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu absolument partout, y compris dans des villages, y compris dans des gros villages. Les mots ont un sens, hein, c'est pas la même chose dire petite ville, bourgade, village, hameau et tout ça, est-ce qu'il y a un commerce ou pas, et même dans des villes de 2-3 000 habitants comme Joinville en Haute-Marne par exemple, il y a une volonté de pas se laisser faire. Il y a par exemple à ce endroit-là des très beaux hôtels particuliers du XVIe siècle qui sont pour certains en ruine, et bien, il y a une volonté de la mairie de les conserver. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, et au-delà de ça, c'est pas seulement la zone commerciale, bien sûr c'est ce qui est le plus frappant et c'est ce que chacun d'entre nous voit quand on se promène dans une ville moyenne. On voit malheureusement ces vitrines vides, une partie d'entre elles sont vides, et on voit aussi les zones à l'extérieur, c'est le plus frappant. Mais c'est d'une manière générale tous les attributs de la ville. On le fait avec les piscines, les cinémas, la maternité, parfois même l'hôtel de ville, j'ai vu ça l'autre jour dans le Vaucluse, un hôtel de ville qui est au milieu de la campagne. C'est incroyable, la mairie. Et voilà, et même le marché. Il y a Vourles dans le Rhône, à côté de Lyon. Il y a le marché qui est très couru, certes, mais qui n'est plus dans le village, qui est à l'extérieur sur un parking. Donc voilà, on a quand même cette volonté d'extérieur... je sais pas comment on dit, extérioriser, décentraliser la ville. Et donc, les attributs de la ville sont... déplacé dans un territoire beaucoup plus vaste et du coup les déplacements se font comme tu le sais bien du coup forcément en voiture alors que y compris dans une bourgade de 5-7 000 habitants Péronne dans la Somme, par exemple, peut se traverser à pied d'un commerce à l'autre sans aucune difficulté, à condition que les trottoirs soient à peu près et on pourrait tout à fait le faire mais le réflexe c'est la voiture pour tout et pour tous les trajets.
Alors, l'on doit aussi évoquer évidemment pour expliquer cet ensommeillement la désindustrialisation de certaines régions. La France du TGV, qui réduit quand même le maillage ferré, et puis évidemment, comme tu viens de le dire, le tout voiture, qui accompagne le rêve pavillonnaire, sans qu'on puisse, à l'époque, imaginer et inventer un urbanisme des maisons. Antoine, comment les réseaux et les territoires se rencontrent-ils ?
Alors, d'abord, juste un préalable. Effectivement, je pense qu'il y a toujours une difficulté à sectoriser en fait le territoire en parlant d'abord, et ça nos gouvernants l'ont fait, en parlant d'abord des métropoles, ensuite en se préoccupant des grandes villes, ensuite des petites villes, enfin des villes moyennes, des petites villes, ensuite des bourgs. Là on en est au bourg, on se dit à un moment ils vont s'intéresser au village peut-être. Et donc il y a ce côté un peu systématique et dans l'ouvrage que tu évoquais, La Frugale, l'idée, c'était de s'intéresser à tout ce qui était en dehors des villes de plus de 20 000 habitants. Alors, on peut appeler ça le rural, pourquoi pas, ou les campagnes urbaines, ou les campagnes industrielles aussi, parce qu'en fait, on dit que les campagnes se désindustrialisent, mais en fait, c'est encore dans les campagnes qu'il y a le plus d'industrie, en fait, et le plus de travailleurs, en fait, de l'industrie. Et donc... ça nous a révélé des choses absolument extraordinaires parce qu'en fait, je pense que pour parler des petites villes, des bourgs et des campagnes, il faut changer de focale, en fait. Et il y a toujours une difficulté, c'est de regarder le minuscule, le discontinu, des choses comme ça. Et du coup, là, effectivement, on revient en réseau. Qu'est-ce qui se passe? Et de la même façon, quand on parle des réseaux ou qu'on parle des villes en général, on parle bien évidemment du train, du tramway, des pistes cyclables, etc. Mais on ne parle jamais de ce qui n'est pas la ville, en fait. Et dans ce qui n'est pas la ville, je pense qu'il y a toutes sortes de... D'abord, on vit énormément dans la proximité, et donc avec des distances qui pourraient être parcourues et qui sont de plus en plus parcourues par d'autres moyens de transport que la voiture. Mais en même temps, il ne faut pas appliquer des critères de la ville à ces territoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer la voiture. C'est quelque chose de complètement inimaginable. Et je pense que l'objectif, ça serait plutôt d'essayer d'arriver à produire la Ford T du troisième millénaire, mais qui fonctionne avec des carburants, bien évidemment, renouvelables, etc. Donc il y a cette idée que le réseau peut, les grands réseaux peuvent aller jusqu'à une certaine échelle, mais au-delà, c'est de l'initiative individuelle, de la petite initiative collective. Le covoiturage dans la campagne a toujours existé. On accompagnait la grand-mère, on accompagnait le petit-fils, etc. Donc il y a cette espèce de retour justement à des valeurs, mais ça on en parlera, qui sont des valeurs de la campagne. Et qui peuvent laisser imaginer que peut-être la campagne, c'est l'avenir des territoires. Mais ça, on en parlera.
Olivier, dans ton livre, tu n'évoquais pas, comme on va le faire maintenant, évidemment, je pense avec autant de force, le commerce en ligne.
Oui, depuis 2020, il s'est passé des choses. Juste une chose quand même, simplement, Antoine, je me permets. Personne ne dit jamais, nulle part, qu'il faut supprimer la voiture. Au contraire, il y a des tas de gens qui veulent la mettre partout. Ça existe sans problème. Mais personne, même en ville... Quand on dit on va organiser de façon à ce que les gens puissent se déplacer autrement, ça ne signifie pas qu'on va supprimer une voiture. Il y a une voiture, il y en a partout, tout le temps, y compris dans la ville néerlandaise la plus dense, il y a toujours une voiture qui traîne au moins sur un parking. Donc dans les campagnes, dans les villages, il n'est pas du tout question de ça. Personne ne dit ça. Par contre, quand je vois que la norme je reprends Péronne, ou Tournu en Saône-et-Loire, consiste à pour faire 800 mètres ou Privas en Ardèche, vous traversez le pont sur l'Ouvèze, consiste à prendre sa voiture parce que tout le monde fait comme ça, après ça fait des parkings pleins, parce que juste le pont sur l'Ouvèze a des minuscules trottoirs et que c'est pas sécurisant. Mais je trouve ça dommage. Et je trouve ça, en plus de ça, bête. Et probablement, c'est-à-dire à la fin, ça fait juste une société où les gens ne se croisent pas. Donc il ne s'agit pas à personne. Moi, je ne vais pas dire ensuite, certainement pas aux Privadois, qu'il faut transformer le pont de Louvèze en pont piéton. Ce n'est pas le sujet. Mais par contre, qu'on élargisse au moins les trottoirs. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas de supprimer la voiture. C'est de faire en sorte qu'on puisse se déplacer autrement. Et aujourd'hui, il y a même parfois pas. Alors ça dépend dans quelle ville. Il y a de plus en plus. C'est quand même cette réflexion-là, y compris de la part de maires de villes moyennes, de petites villes aussi. Mais malgré tout, il s'agit pas une fois de plus de dire voilà, vous allez tous maintenant faire comme rue de Rivoli. Jamais. Et je tiens vraiment parce que très souvent lorsqu'on dit ça, il y a cette idée ah mais parce que évidemment c'est Paris qui nous impose. Non. Dans les villes moyennes, dans les petites villes, on a aussi envie et besoin de pouvoir faire vivre la ville et donc se croiser, se rencontrer, regarder les gens dans le blanc des yeux, puisque maintenant on ne voit pas le bas du visage.
Antoine.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais alors ce qu'il faut, c'est peut-être sortir de l'idée de parler toujours de la ville, en fait. Moi, je pense qu'il faut passer de la ville au territoire. Et à ce moment-là, on parle d'interdépendance entre la petite ville, le bourg, le village, même le hameau. Et je pense qu'il y a des... Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut donner offrir une alternative au déplacement automobile. Et là, il y a des... Dans une enquête qu'on avait... Une comparaison qu'on avait fait entre la Picardie et le Bade-Württemberg, on s'est rendu compte que dans le Bade-Württemberg, au moment où ils ont regroupé les communes, en fait, en parallèle de chacune des routes qu'on appellerait départementales ici, ils ont tracé une piste qui sert à la fois de chemin agricole et de piste cyclable. Et c'est vrai que ça offre une opportunité de faire autre chose que de prendre sa voiture. On est tout à fait d'accord. Et donc, c'est ce réseau, ce maillage fin de réseau qu'on commence à trouver maintenant encore dans les campagnes françaises, qui peut permettre justement de transformer cette vision qu'on a, mais que je ne réduirai pas à la voiture et au pavillonnaire. Mais ça, c'est
un autre... Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec que c'est... Alors, j'écris tout là-dessus, évidemment.
Non, mais en polémique,
je pense que c'est le territoire, la vraie notion fondamentale. Parce que la ville, pour moi, comme vous le savez, n'existe plus. Elle a des campagnes non plus. Nous sommes dans des non-villes et des non-campagnes. Et donc, si on veut rectifier le tir, effectivement, il faut redonner à l'automobile sa juste place. Parce que, comme on le sait, elle est... auto-immobile 95% de son existence. Donc ça, c'est déjà excessivement fâcheux. Il y a un très grand livre américain qui est paru l'été dernier qui révèle qu'il y a 2 milliards d'emplacements de parking aux États-Unis. Donc c'est quand même ahurissant. Je parle de 2 milliards d'emplacements légaux. Je ne parle pas des gens qui se gardent n'importe comment. Bon. Donc ce sera intéressant de faire cette étude-là en France, de voir à peu près l'ampleur de on le sait pour les centres commerciaux avec leur vaste parking, mais aussi pour toutes les villes. Alors la voiture, c'est un autre sujet qui fâche. On pourrait l'inscrire dans cette émission. Mais là, je reviens...
Je réponds à la question de Thierry quand même, maintenant. Oui, c'est sûr qu'effectivement, en 2020, il y a cette explosion des livraisons du commerce en ligne. C'est difficile de savoir tout de même, parce qu'il y a d'un côté cette envie, ce besoin, ce que tu as dit dans ton introduction, qui était très juste, c'est-à-dire ce citadin qui d'un seul coup veut se faire livrer, appuie sur un bouton. Je trouve ça sidérant. Dans une ville qui, en temps normal, en l'occurrence Paris, a 15 000 restaurants, de ne pas pouvoir faire quelques pas dans la rue pour aller, même en commandant d'avance, chercher le plat, si vraiment on n'a pas envie de cuisiner. En plus de ça, avec tous les magasins qui vendent déjà des plats tout préparés, si vraiment les gens décident de ne pas utiliser ce temps merveilleux qui est celui de la cuisine. Mais bon. Donc il y a les deux tendances. Il y a cette tendance-là, et puis il y a aussi la tendance de la proximité, de se revoir une fois de plus. Et ça, je suis frappé. Je vais profiter du deuxième confinement pour en fait, puisque c'était possible, aller faire des courses dans un quartier de Paris différent à chaque fois, puisque c'était le fameux kilomètre, c'était valable pour la promenade, mais pour les courses, il n'y avait pas de règles. Donc du coup, j'allais toujours me promener, et donc j'ai vu plein de marchés différents, et à chaque fois, beaucoup de monde qui parlait avec les maraîchers, parce qu'ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin de se rencontrer. Et donc cette volonté de proximité, on l'a vu, et on l'a vu tout au long de l'année 2020, les enseignes commerciales constatent que la Fédération des enseignes constate que les villes qui ont le mieux résisté, les centres-villes qui ont le mieux résisté en 2020, ce sont les centres des petites villes et des villes moyennes, parce que il y a, alors pour des raisons objectives, c'est que dans les grandes villes, il y a moins les touristes, il y a moins les tout simplement les congressistes, hein, qui sont là, qui sont plus là. Mais par contre, et puis il y a le télétravail. Mais là, il y a aussi, c'est rassurant. On se retrouve, et puis on sait que il n'y a pas trop de monde. Et puis de la même façon, les grandes zones commerciales ont plutôt fait moins que les moyennes zones commerciales. Et donc, il y a comme cette volonté. Et autre chose importante, c'est que, là encore en 2020, quand les gens se déplacent en ville, c'est pour acheter. Jusqu'à présent, on pouvait se dire on va flâner, etc. Là, ça devient moins rigolo de flâner. Donc là, c'est pour acheter. Donc il y a quand même cette tendance-là, plus le fameux kilomètre ou les 20 ou les 100, peu importe, mais qui fait qu'on redécouvre de cette façon la proximité. Des gens se disent quand ils sont ouverts là aussi que les restaurants, on peut tout à fait aller au restaurant de son quartier plutôt que de traverser la ville en scooter polluant pour aller dans un restaurant dans un autre quartier. Donc je crois qu'il y a aussi cette... Donc les deux tendances sont là. C'est pas forcément les mêmes gens qui font l'un ou l'autre. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais je crois quand même beaucoup qu'on ne peut pas se contenter dans la vie de réunions Zoom, GoToMeeting ou Microsoft Teams.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'il y a eu un petit frémissement d'exode urbain et certains tout de suite, de manière un peu caricaturale, ont conclu, voilà, c'est fini, les grandes villes ne plaisent plus, les gens vont partir s'installer. Est-ce qu'on s'installe vraiment dans tous les territoires, Antoine ?
Alors, je pense qu'il faut effectivement faire un espèce de panorama démographique sans être trop long. Et c'est vrai que depuis les années 90, tout le monde a constaté qu'il y avait une redynamisation des campagnes. Et cette redynamisation, donc c'est ce qui nous intéressait dans le cadre de cette recherche frugale, on s'est rendu compte qu'il s'est passé de tout partout. C'est-à-dire que les villages, les bourgs, les petites villes ont partout, enfin dans tous les territoires, sauf dans le Limousin. Donc sur nous, on avait observé 14 territoires régionaux, et aussi bien en Picardie que dans le sud-ouest, le sud-est, l'est, etc. Et en fait, ça n'est que qu'en Limousin que, en fait, il y a eu un petit frémissement, donc la population s'est stabilisée, mais partout ailleurs, la population a augmenté dans les campagnes, donc en dehors des villes de 20 000 habitants, qu'on soit bien d'accord. Et toutes les catégories d'établissements humains, pour utiliser un terme de géographe, ont gagné de la population. Le bourg, le village, etc. Et les bourgs, c'est cette catégorie qui s'en est le mieux sortie. Alors, en même temps, il ne faut pas généraliser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un bourg picard, c'est plus différent d'un bourg limousin qu'Amiens de Limoges. En fait, les campagnes sont extrêmement diverses et on peut difficilement raisonner par exemple sur la catégorie bourg. Par exemple, en Limousin, ils appellent bourg ce qu'on appellerait en Provence des villages, par exemple. Donc les choses sont centrées. Et donc, c'est vrai que ce frémissement, je pense qu'il s'est effectivement, alors parce qu'on parlera peut-être après d'une seconde étude qu'on est en train de terminer. Mais ce frémissement, il s'est un peu accéléré peut-être ces derniers mois. Mais alors, est-ce que c'est provisoire ou pas ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une vraie dynamique démographique.
Ça voudrait dire que les décideurs politiques, ceux qui ont réduit le nombre de régions à 13 et qui ont misé sur les métropoles, se sont trompés. Ou n'étaient pas à l'écoute de tout ce qui travaillait en profondeur de la société d'un point de vue de sa répartition territoriale.
Complètement. Je pense qu'ils sont à la traîne. Tout à fait, oui. C'est très, très clairement. Et ils essaient toujours de...
Alors, comment expliquer pourquoi on continue à ouvrir des centres commerciaux ?
Alors attends, parce que le sujet d'avant, sur ce fameux exode urbain, c'est le sujet de mon prochain bouquin qui sort en février. Je me permets, quand même. Les Parisiens, une obsession française. Donc voilà. Et c'est vrai, l'idée m'est venue en mars, précisément au moment où il y a eu ce qu'on a appelé l'exode urbain. C'était pas seulement Paris. D'abord, c'était toute l'Île-de-France. Et c'était pas seulement l'Île-de-France, c'était aussi les grandes villes. Et puis, il y a eu des mouvements dans tous les sens, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tendance est très ancienne. Dans les années 60, on pensait que l'Île-de-France ferait 20 millions, je crois, ou 16 millions d'habitants en 2000. En fait, on est aujourd'hui à 12 millions, donc on a moins augmenté que ce qu'on avait imaginé. La tendance depuis plusieurs années est que l'Île-de-France, s'il n'y avait pas les enfants qui naissent, perdrait des habitants bien plus que n'importe quelle autre région. Le sol migratoire est négatif, les gens ne veulent plus y habiter. Quand on fait des sondages, à chaque fois, il y a une majorité de gens qui disent « si on pouvait habiter ailleurs, on le ferait ». Alors tous ne le feront pas, mais malgré tout, et c'est ça qui est, ça rejoint ce que tu disais Thierry, c'est que malgré tout, il y a une politique d'État qui s'appelle la politique du Grand Paris, qui consiste à toujours vouloir concentrer les investissements, la population, tout ça en Île-de-France. Et ça, d'ailleurs, avec moi, ce qui me frappe dans les discussions sur le Grand Paris, c'est qu'à chaque fois, on a des gens qui vivent tous en région parisienne et qui n'imaginent pas, en dessous d'une bulle, en fait, ils n'imaginent pas le reste du pays. C'est assez frappant, je ne comprends pas. Ils n'arrivent pas, ils ne se posent pas la question et sans se rendre compte que dans le reste de la France, c'est pas qu'on les méprise, c'est que souvent on les ignore et que ça les intéresse pas, le Grand Paris. Mais là, ils sont là persuadés, ils font des discours. Le jour, il y avait Sarkozy qui est venu faire un discours, expliquer que tout ça était bon pour la France, qu'il fallait faire le Grand Paris pour la France. Voilà, donc il y a cette politique-là qui existe. Je sais que c'est plus Sarkozy qui officiellement gouverne, mais enfin, il y a quand même cette politique qui est là, qui continue sur son air, quels que soient les gouvernants, et en même temps, cette volonté de finalement déconcentrer. Et cela dit, aujourd'hui, il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. Si on avait 9 millions dans 10 ou 15 ans, eh ben, ce serait quand même une énorme ville au niveau européen qui pourrait être beaucoup plus vivable. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a trop de monde dans les grandes villes et qu'une partie des gens veulent plus y habiter, et donc il faut prendre des décisions pour, que ça veut dire qu'on va totalement vider les villes. Personne ne dit ça. Et en plus, il y a plein de catégories de villes, on le sait tous. Et donc on peut tout à fait quitter Paris, par exemple, aller à Bordeaux, mais aussi aller à Marcillac-Vallon, dans l'Aveyron.
Antoine, quand tu dis qu'un bourg ne ressemble pas à un autre bourg, est-ce que ce n'est pas aussi dans son équipement, en service, en service public en particulier, et puis aussi en commerce, et puis aussi en activité alors, qu'est-ce que tu saisis qui serait aujourd'hui décisif? Comme le disait Olivier, le télétravail permet une autre localisation. Est-ce que ça, ou c'est trop tôt, on n'a pas encore les éléments pour en tirer des conclusions, est-ce qu'on pourrait repérer une nouvelle répartition, finalement, de la population sur le territoire?
Oui, absolument. Alors, effectivement, la question du bourg, alors, quand on a débuté cette recherche, on a cherché des définitions. Qu'est-ce qu'un bourg? Qu'est-ce qu'un village? Qu'est-ce qu'un hameau, une petite ville? Alors, c'est impossible. Alors, on peut remonter un siècle de travaux géographiques. On trouve. Alors, si quand même, bourg, c'est un petit pôle rural qui offre différents services, dont notamment le marché et notamment un certain nombre de services, je dirais, intermédiaires, en fait. Donc peut-être que, de ce point de vue-là, le bourg, effectivement, a perdu de ces commerces-là, alors au détriment du centre commercial, parce que dans un bourg, alors c'est bourg ou petite ville, après, c'est difficile à discerner, mais il y a deux centres commerciaux, parce qu'on en a d'abord... On a permis l'implantation d'un premier, puis on s'en dit on va le mettre en concurrence, donc on en met deux. Et donc, je pense qu'il y a une faute politique absolument énorme. Et maintenant, quand on voit les maires ou autres venir pleurnicher parce que leur centre-ville ne fonctionne pas, c'est quand même assez, assez ridicule. Et donc, cette dissémination de la population, cette redistribution de la population... Donc moi, je pense qu'il ne faut pas parler d'exode urbain, je pense qu'il faut parler de redistribution de la population, c'est-à-dire qu'il se passe, comme je disais, de tout partout, et donc les populations sont finalement, heureusement, font ce qu'elles veulent, on n'est pas en Chine.
Où on ne porte pas, oui.
Voilà. Et elles vont là où ça les attire. Alors, on se rend compte que... Il y a effectivement beaucoup d'évolutions dans le commerce pour reparler de ce qu'Olivier a abordé tout à l'heure. Donc il y a le retour, par exemple, des commerces ambulants. C'est quelque chose d'assez... Mais alors, fonctionnant à partir d'informatique. C'est-à-dire, on commande et puis on vient... La livraison, c'est extrêmement fréquent. Des AMAP qui fonctionnent sur aussi, comme à Paris, on commande à l'avance, une semaine à l'avance, ce dont on a besoin. Donc le net a beaucoup apporté de ce point de vue-là. Et puis, il y a ce qu'on a observé, c'est le retour du marché. Alors, le marché, c'est plutôt dans le village ou dans le bourg. Et c'est vraiment une pratique. Alors, il y a le marché de producteurs. Et puis, on se rend compte que, peut-être on en parlera tout à l'heure, il y a une dynamique associative dans les campagnes, ou dans le rural, disons, absolument incroyable. Rapporté à la densité de population, il y a plus d'associations dans la campagne qu'en ville, en fait. Et ces associations, elles composent un genre de maillage. Donc, il y a la MAP, il y a le café...
associatif.
Le café associatif, il y a la ressourcerie, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui forment un ensemble très dynamique. Alors, c'est plus le cœur de bourg qu'on connaissait, mais c'est quand même une densité associative, une densité d'interrelation absolument incroyable.
Pascal.
Oui, à la liste d'Antoine, on peut ajouter aussi les artistes, précisément.
La vie culturelle,
la présence d'artistes qui vivent dans ces territoires ruraux, et qui vivent dans ces territoires ruraux, pas seulement pour produire des œuvres, pour faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi pour produire de l'urbanité, et pour faire écho au titre de l'émission, c'est-à-dire pour imaginer des formes d'être ensemble, festives par exemple, hein, des nouvelles façons de faire la fête, mais aussi de réfléchir, mais aussi de partager des moments artistiques et culturels, et aussi de faire créer à partir de la culture, c'est-à-dire à partir de ce qui est là, à partir des énergies, des traditions, des envies, des désirs, des pratiques contemporaines des gens. Et moi, c'est vraiment une chose qui me frappe, c'est que cette revitalisation des campagnes, elle se fait beaucoup avec les artistes qui deviennent des acteurs à part entière de la fabrique urbaine. Et encore une fois, urbaine au sens de l'urbanité, hein, de la fabrique de l'urbanité, pas uniquement au sens de la fabrique de la ville. Et ça, c'est très intéressant. On le voit, par exemple, en Haute-Garonne avec les pronomades. On peut le voir à Capdenac avec Derrière le hublot. On peut le voir à Job avec Carton plein. À Auray, où vient d'être nommé quelqu'un qui va porter cette dynamique-là dans l'esprit des droits culturels. On le voit à Saumur-en-Auxois, en Bourgogne, où Stéphanie Lemoine est en train d'initier des projets du même ordre. Partout en France, en fait, cette revitalisation urbaine, elle se fait avec des artistes qui œuvrent à produire de l'urbanité, à produire du commun, du lien, de l'échange, de la relation. Et ça, c'est assez réjouissant.
Bah, vous leur montez le moral. Dernier mot, Olivier.
Oui, merveilleux. Déjà. Et en même temps, il y a un lobby très fort qui continue à vouloir créer des zones commerciales en France. Et ils sont très puissants et ils se font entendre. Et dès que vous leur dites tout ça, ils disent mais non, il faut faire de la croissance et de l'emploi, quoi qu'il en coûte.
Il n'y a pas débat.
Antoine, dans tes écrits, ouais. Tu évoques quand même à plusieurs reprises le retour ou le redéploiement du vernaculaire. Ouais. De la même manière que le centre commercial continue à s'obstiner à bétonner, et ben les bétonneurs continuent aussi à bétonner les logements. Est-ce que là, il n'y a pas un rapport de force qui n'est pas favorable finalement à ce que Pascal constatait, c'est-à-dire une réelle redynamisation des campagnes?
Oui, tout à fait. Enfin, il y a quand même dans les campagnes, parce que en fait le matériau est là, de la même façon, une dynamique qui va vers des matériaux biosourcés, etc. Et ça, c'est tout à fait réel, mais avec une difficulté qu'on fait remonter dans cette dernière étude, c'est qu'en fait il y a des normes qui s'appliquent, et des normes qui sont des normes industrielles. Et l'artisan charpentier, l'artisan menuisier, il ne peut pas aller, comme nous l'évoquait un de nos interlocuteurs, il ne peut pas aller dans le bois d'à côté, abattre un arbre et puis faire sa charpente, parce qu'il faut que sa charpente réponde à certaines normes. Et donc, il y a comme ça une difficulté. Mais je pense que dans les campagnes, il se passe beaucoup de choses œuvrant justement à changer la production du bâti.
Merci beaucoup. Ça passe vite. Hein.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel...
Ce chant des résistants italiens anti-nazis date de la fin de l'année 1944 et s'inspire d'une chanson contestataire du début du siècle, les Mandines, ces saisonnières qui désherbaient les rizières de la plaine du Pô et repiquaient le riz pour des salaires absolument scandaleux, indécents, et donc elles se battaient, elles luttaient, et elles ont réactivé cette chanson magnifique qui dérive, paraît-il, d'une ballade française du XVe siècle. Son refrain, Bella Ciao, signifie « ma belle, salut », mais certains y entendent « bonjour » et « au revoir ». Pourquoi ce choix ? Pour annoncer le coup de cœur qui n'est pas un livre, pas plus qu'une exposition, mais un film qu'on trouve en DVD, « Main basse sur la ville » de Francesco Rossi, qui date de 1963.
Urbanité. Le coup de cœur.
Attention, chef-d'œuvre. Francesco Rossi, né en 1925, mort en 2015, lion d'honneur à la Mostra de Venise en 2012, est un cinéaste attentif à ce qui travaille en profondeur la société italienne. Ses films sont souvent menés comme des enquêtes très bien documentées avec des comédiens non professionnels qui interprètent leur propre rôle. Il sera comme ça attentif au destin de certaines personnalités comme le célèbre bandit sicilien Salvatore Giuliano, qui est un film de 1962, Enrico Mattei, roi du pétrole qui meurt assassiné, l'affaire Mattei en 1971, ou encore Lucky Luciano en 1973, un mafieux new-yorkais qui se retire à Naples où il est terrassé par un infarctus alors même que le narcotique bureau le surveille et le considère comme le cerveau mondial de la drogue. Lorsqu'on associe ville et cinéma, d'innombrables films surgissent dans notre mémoire. Mais l'un du moins, au moins pour moi, l'un d'entre eux s'impose. Main basse sur la ville, tournée à Naples, ville natale de Francesco. Après des études de droit, il fait de la radio, puis du théâtre, écrit des scénarios et découvre le cinéma, qu'il apprend aux côtés de Visconti, puis d'Antonioni. Pas mal quand même, hein, comme apprentissage. Il réalise son premier film en 1958, Le Défi, tourné également à Naples. Là, dans Main basse sur la ville, il montre de manière implacable le lien entre la spéculation immobilière et la gestion municipale à travers les manigances d'un élu, Nottola, interprété par Rod Steiger, qui est aussi un promoteur et qui profite de l'effondrement d'un immeuble vétuste, ébranlé par la propre construction neuve qu'il est en train d'engager à ce moment-là, pour édifier une nouvelle construction destinée à une autre population, bien sûr, plus aisée. Évidemment, au conseil municipal, il doit affronter le leader communiste, Davita, qui est interprété par le vrai leader communiste de la ville de Naples. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on participe à toutes les réunions du conseil municipal, mais ce n'est pas de la reconstitution, même si le Rod Steiger est un immense comédien, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Donc ce sont ces intrigues au sein du conseil municipal qui vont expliciter le destin de cette ville. Nottola exprime la collusion entre le pouvoir économique, celui qui achète des terres agricoles, qu'il a réussi à rendre constructible en corrompant le maire et qui lui permettra une spéculation particulièrement juteuse puisqu'il achète un pour revendre 5 000. C'est absolument sidérant, évidemment. Et évidemment, pour revendre 5 000, il faut que tous ces terrains soient viabilisés, qu'il y ait l'eau, l'électricité, des routes, l'éclairage, tout ça payé par la municipalité, évidemment. Donc c'est une sorte de cadeau que les finances publiques font à un promoteur privé. En 1974, Rossi, donc 10 ans après le film, Rossi confie « En regardant ces maisons l'une sur l'autre, on dirait un ossuaire, pas une ville. Qu'est-ce que c'est qu'une ville ? Ce sont des maisons, des rues, ce sont des activités, des usines, des artisans, des ouvriers, et surtout, ce sont des activités pour la vie. Mais moi, dit-il, en regardant cette espèce de sphère, j'ai eu l'impression qu'au contraire, ce sont des maisons et des activités inventées pour la mort. L'histoire urbaine, alors, pour lui, est triste. Elle est jalonnée de catastrophes auxquelles on s'habitue, finalement. Et Rod Steiger joue, ce comédien extraordinaire, joue dans La chaleur de la nuit. Film incroyable, évidemment. Et là, il obtient un Oscar, parce que tout à fait mérité. Il est massif, puissant, déterminé. Il est du côté des nantis et refuse de perdre. Et n'hésite pas à tout faire pour se maintenir au pouvoir et de mettre la ville sous sa main.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.